témoignage écossais.
Une idée du Suprême Conseil pour la France.
Présenté par Stéphane Demazur et Claude Guichard.
La spiritualité, vous ne pourrez pas la détruire, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est absolument impossible.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Témoignage écossais consacré aux lauréats du 3e prix littéraire des Rencontres écossaises. Nous recevons l'auteur de Croix de cendre, roman d'aventure médiévale teinté de mystique rhénane avec un zeste de peste noire et d'inquisition dominicaine, et publié chez Grasset. Son auteur a reçu cette distinction lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Angers le 5 octobre dernier, pendant les 40e Rencontres écossaises. Antoine Sénanque, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que dans le cadre de ce prix littéraire, deux autres prix ont été remis à cette occasion, l'un à Dominique Jardin, pour l'ensemble de son œuvre, consacré notamment à l'histoire de la franc-maçonnerie, et l'autre à François Azouvi, auteur de « Du héros à la victime » et publié chez Gallimard. Alors Antoine Sénanque, merci tout d'abord de votre présence ici dans le nouveau studio de Témoignage écossais. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous adressons encore toutes nos félicitations pour ce prix.
Merci.
Où vous succédez à Frédéric Lenoir en 2022 et à Françoise Schwab l'année dernière. Alors je vous présente en quelques mots, vous êtes médecin, neurologue pour être précis, auteur de plusieurs romans dont les premiers étaient plutôt consacrés à l'exercice de votre profession avant de vous attaquer à des sujets plus proches de la fiction, jusqu'à arriver à ce roman dont on va parler aujourd'hui, ce roman qui n'a pas qu'enchanté les membres de notre jury, car je rappelle qu'il a été retenu par ceux du prix Goncourt quasiment jusqu'à la finale l'année dernière, et vous vous êtes également vu remettre le prix des écrivains de marine en 2023. Même si les tribulations de Maître Eckhart, qui est le personnage principal de votre roman, sont loin d'être celles d'un quartier maître. Mais bon, les marins sont aussi parfois des terriens qui savent reconnaître, je cite le règlement du prix, des œuvres d'imagination s'attachant à dévoiler un pan de la condition humaine. Est-ce que vous confirmez, Antoine Sénanque ?
Je confirme parfaitement. J'étais très honoré de recevoir ce prix. Il y a eu une réunion absolument formidable à Angers avec une qualité, on peut dire spirituelle, que j'ai ressentie et qui était tout à fait en écho avec les Croix de cendre et Maître Eckhart.
Alors, pour vous interviewer aujourd'hui, je suis en compagnie de Claude Guichard, secrétaire du jury du prix littéraire des Rencontres écossaises, qui, je le sais, a apprécié votre ouvrage, mais ce n'est pas un secret, et encore moins une découverte. Bonjour Claude.
Bonjour Stéphane, bonjour Antoine Sénanque. Alors c'est vrai que j'ai apprécié ce livre, mais je ne suis pas tout seul, puisqu'en fait, cet ouvrage a fait l'unanimité du jury. Et d'ailleurs, à ce titre, je voulais souligner que ce n'est pas la première fois que des romans sont sélectionnés en finale du prix littéraire des Rencontres écossaises, puisque nous avons eu le roman de Mathias Hénard et nous avons eu aussi des romans de Sylvain Tesson. Alors, votre roman, bien sûr, nous a intéressés, mais surtout, il nous a interpellés et interrogés. D'abord par son titre. Alors, ça sera ma première question. Pourquoi Croix de cendre ?
Alors, pourquoi Croix de cendre ? En fait, il y a deux lectures du titre. Première lecture qui se réfère à l'histoire du Moyen-Âge et des hérésies, puisqu'on va croiser dans le livre des hérésies diverses et variées. Et il y a une chose qu'on a bien démontré historiquement sur le destin des hérétiques qui passaient dans les mains de l'Inquisition et qui finissaient sur le bûcher, c'est que rien des restes de l'hérétique ne devait être gardé. Il n'y avait pas de cimetière ou d'inhumation possible pour les restes de l'hérétique. Aucun hérétique n'avait le droit à être inhumé de manière chrétienne dans les cimetières. On dispersait les cendres après même avoir broyé les os qui restaient sur les bûchers dans les champs. Et finalement, pour les proches de l'hérétique, il n'y avait aucun endroit, aucune sépulture devant laquelle ils pouvaient se recueillir. La seule solution, c'était chez eux de tracer des croix de cendre avec la cendre de l'âtre et prier devant ces croix de cendre puisqu'il n'y avait pas d'autres croix devant lesquelles ils pouvaient prier. Ça, c'est l'interprétation historique. Et puis, il y a une interprétation plus personnelle, moi, qui m'est chère, d'ailleurs, plus que celle-là, qui vient du fait que j'ai toujours pensé qu'on avait des cimetières dans notre mémoire, des endroits où on enterrait les choses qu'on n'aurait pas dû faire, les regrets, les mensonges, les trahisons qu'on avait commises. Et puis tout ça, on le laisse dans notre mémoire, on les enterre. On les enterre en attendant que l'oubli brûle tout ça, brûle leur tombe, brûle leur croix si ces victimes, en fait, de nous-mêmes avait droit à ses croix. Et sur ces tombes, eh ben, après le feu de l'oubli, il reste quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ses croix de cendre. Et je crois qu'on a tous dans la tête des croix de cendre que l'oubli, justement, ne peut pas faire disparaître, qui existent et qui marquent les actions néfastes, mauvaises qu'on a commises. Et dans le livre, tous mes personnages ont des croix de cendre dans leur mémoire, parce que tous sont justement dirigés par des actes qui peuvent remonter très loin dans leur passé et qui sont des actes qu'ils regrettent, mais qui, en même temps, sont des moteurs.
Mmh. Ben, c'est vrai qu'en même temps, les cendres, c'est chargé de symboles. En fait, dans la religion chrétienne, les cendres, c'est le début du carême, etc. Mais c'est aussi le symbole du souvenir. Donc, si je comprends bien, le souvenir, c'est quelque chose qui est important pour vous.
Ben, oui, c'est très important, le souvenir. De toute façon, c'est un livre de mémoire. Hein. Finalement, il y a toute une partie du livre qui se passe dans la mémoire d'un des personnages qui raconte toute son enfance autour de ce grand personnage de Maître Eckhart dont on va parler. Donc, la mémoire est essentielle. Et surtout, les choses que la mémoire ensevelit. Et c'est le point commun de tous les personnages, c'est qu'il y a dans leur mémoire justement des souvenirs ensevelis qui finalement ne disparaissent absolument pas et qui sont au contraire, peut-être parmi tous les souvenirs qu'on a, les souvenirs les plus importants et les plus guides des actes que nous faisons ou que nous commettons.
Alors, pour démarrer, pour poursuivre cet entretien, Antoine, je voulais vous demander comment vous était venue l'idée de faire de Maître Eckhart un personnage de roman. Je vous ai posé la question à Angers, mais tous nos auditeurs n'étaient pas présents, parce que je pense que c'est bien la première fois qu'il se retrouve ainsi acteur d'une fiction, lui dont l'œuvre est régulièrement disséquée par les plus grands théologiens et docteurs de l'Église, plutôt que par des chirurgiens, même si le cerveau est parmi vos domaines de compétences.
Oui, mais ça, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, de faire un roman autour de Maître Eckhart, parce que Maître Eckhart, je l'ai découvert il y a plus de 30 ans, 30 à 40 ans, de manière tout à fait par hasard, en me baladant chez un libraire et en voyant sur la table du libraire un livre qui s'appelait « Sermon de Maître Eckhart ». Et quand j'ai vu ce nom, j'ai été interpellé par ce nom. Maître Eckhart, ça a véritablement chanté en moi. Et je me suis dit, tiens, ça doit être un alchimiste et le livre doit me parler de la pierre philosophale. Et puis j'ai commencé à ouvrir le livre. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec un alchimiste, que c'était un des plus grands théologiens du Moyen-Âge, que sa vie avait été extraordinaire, puisque avec une période de gloire fantastique à la tête de la pensée dominicaine de l'époque, et puis une période de gouffre où il a subi un procès en Inquisition. Et donc, la vie de Maître Eckhart est une vie extrêmement... était une vie de roman absolument extraordinaire. On passe de la gloire à la chute, et il recrée autour de lui, on peut recréer autour de lui énormément de personnages qui ont compté dans le Moyen-Âge et qui étaient ses contemporains. Et donc, je me suis intéressé à ce personnage, mais sans plus, avant de véritablement me plonger dans ses sermons. Et j'ai commencé à lire les sermons de Maître Eckhart et je dois reconnaître que pendant assez longtemps, je n'y ai rien compris. Parce que c'est un auteur qui est assez hermétique, il faut avoir quand même une petite préparation pour bien comprendre les sermons de Maître Eckhart. Et d'habitude, quand je ne comprends pas quelque chose que je lis, je laisse tomber le livre. Mais, et c'est là qu'il y a vraiment une particularité dans la langue de Maître Eckhart, c'est que dans ses sermons, même si je ne les avais pas compris, j'ai senti un espèce de feu spirituel tellement puissant que ça traversait en fait les mots et ça traversait la compréhension que je pouvais en attendre. Et je me suis dit, je ne peux pas reposer le livre. Et j'ai commencé à lire tous les sermons de Maître Eckhart, à me renseigner sur Maître Eckhart, à essayer d'avancer sur sa connaissance et en me rendant compte en fait que les livres qui parlent de Maître Eckhart sont souvent des livres aussi compliqués à comprendre que l'auteur lui-même. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage de passer à côté d'un tel auteur spirituel, d'une telle auteur de pensée, parce que justement, on n'a pas les clés. Alors, sans aucune prétention, je suis pas un théologien, et je suis pas un spécialiste de Maître Eckhart en réalité, je me suis dit, ça serait bien quand même de faire partager ma compréhension de Maître Eckhart, qui permet en fait de rentrer assez facilement dans sa théologie, de manière ludique, sans que le livre vous tombe des mains. Et donc, de manière ludique, sans que le livre vous tombe des mains, ça veut dire un roman. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire un roman autour de Maître Eckhart. Et je me suis lancé avec l'idée, en fait, que Maître Eckhart serait le centre du roman. Et en fait, en écrivant Les Croix de Cendre, en créant des personnages autour de Maître Eckhart et une histoire romancée autour de Maître Eckhart, je me suis un peu éloigné de Maître Eckhart parce qu'il y a des tas de personnages qui m'ont intéressé et ça a fait un roman sur Maître Eckhart mais qui ne parle pas que de Maître Eckhart.
Mais vous vulgarisez quand même la pensée de Maître Eckhart dans le bon sens du terme parce que Maître Eckhart était aussi un personnage qui s'adressait au peuple en langue vulgaire. Ce n'était pas qu'un entre guillemets, intellectuel de son époque, c'était aussi un homme qui s'adressait, et ses sermons étaient adressés véritablement à une communauté de gens, entre guillemets, simples aussi.
Bien sûr, parce qu'à l'époque, tous les grands théologiens ne parlaient qu'en latin, et c'était très très mal vu de faire des sermons ou de parler de théologie dans la langue vulgaire. Or, Maître Eckhart parlait en langue vulgaire, en l'occurrence en allemand, puisqu'il prêchait dans les terres rhénanes, et ce qui est assez étonnant, c'est que il prêchait les sermons que vous lisez aujourd'hui. Hein. Il y a 180 sermons de Maître Eckhart que vous pouvez lire. Donc, vous voyez comment Maître Eckhart prêchait et ce qu'il disait. Et honnêtement, il s'adressait pas du tout à des érudits, il s'adressait au peuple véritable. Et à l'époque, c'était une véritable star. C'est-à-dire que les gens se pressaient dans les chapelles ou les églises ou les couvents où il prêchait, et pour écouter finalement des textes qui étaient quand même extrêmement abstraits. Mais ça vous montre bien que le personnage avait quelque chose d'étonnant, puisqu'il avait du charisme. Et ce charisme était tel que même si on ne comprenait pas très très bien ce qu'il voulait dire, ça passait. Et donc, évidemment, ça n'a pas plu du tout aux autorités ecclésiastiques de l'époque. Et ça a été une des raisons pour lesquelles ça s'est compliqué beaucoup pour lui à la fin de sa vie.
C'est vrai qu'il y a différents niveaux de lecture de Maître Eckhart, exactement comme des textes, j'allais dire, bibliques ou les évangiles. Il y a un premier niveau de lecture qui peut être simple, oui, comme une histoire. Mais ensuite, effectivement, les messages véhiculés par Eckhart, ça lui a valu effectivement pas mal de problèmes.
Mais pour moi, vous voyez, la clé qui permet d'entrer dans le monde et la pensée de Maître Eckhart, c'est absolument prendre une décision avant de lire un sermon qui est de ne pas essayer de le comprendre. C'est-à-dire, je vais lire un sermon de la première lettre jusqu'à la dernière pour, en le lisant comme ça, en l'écoutant comme de la musique dans laquelle il n'y a pas forcément une mélodie qui vous attire, mais une musique spirituelle. Et je me laisse emporter par les mots, par les idées que je vois à peu près se former, sans m'obliger à essayer à chaque phrase ou à chaque idée, essayer de la comprendre, de la rationaliser. Et peu à peu, si on part avec ce principe de ne pas vouloir comprendre à tout prix, il y a une certaine forme de compréhension qui peu à peu se fait par, on va dire, imbibition, et qui permet après, justement, de véritablement rentrer dans la pensée de Maître Eckhart. Donc, ne pas essayer de comprendre Maître Eckhart, c'est la clé.
C'est la clé, oui.
Ça nous va bien.
Alors, c'est vrai que Maître Eckhart, en fait, je pense que ça jouait aussi sur son charme. Hein. C'est qu'il avait cette double culture, à la fois latine et allemande.
Bien sûr.
Ça lui a donné, en fait, un spectre assez large. Oui. Mais ce que vous venez de dire, ça a été aussi, après le titre, notre grande surprise. Parce que Maître Eckhart, c'est quand même le maître de l'apophatisme, c'est le maître de la vacuité, de l'abîme que l'on doit avoir en soi, et donc du désapprendre. Alors la question qu'on s'est posée, c'est comment un esprit scientifique comme le vôtre peut s'accommoder du désapprendre ?
Ah bah, si vous voulez, alors ça c'est très simple. Hein. Moi, dans mon activité médicale, j'ai passé ma carrière qui arrive à sa fin actuellement à essayer de désapprendre ce qu'on avait appris. C'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi cultivé au moment où je suis sorti de la faculté de médecine où j'ai commencé à prendre des gardes, et je n'ai jamais été aussi incompétent. Donc, ce qui prouve bien que la culture ne vous permet pas d'être particulièrement efficace dans la vie de tous les jours. Donc, après avoir eu quelques périodes de grande angoisse lorsque tout frais sorti de la faculté et le cerveau tout plein de livres, je me suis rendu compte qu'en fait ça ne me servait pas véritablement, ou pas assez en tout cas, pour la prise en charge de mes malades. Je me suis dit, il faut que je désapprenne, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition, à mon expérience, et je crois que je suis devenu un bien meilleur médecin en oubliant beaucoup beaucoup de ce qu'on m'a appris. Donc, pour vous répondre, c'est vrai que la vacuité de Maître Eckhart, je l'avais en médecine déjà.
Voilà, il y a déjà l'expérience.
Oui, tout à fait.
Absolument.
Alors, sans trahir de secret et sans vouloir spoiler, ben c'est un terme horrible, mais je n'en ai pas trouvé d'autre pour l'instant, de raconter la fin du livre, mais vous prenez une liberté incroyable sur la fin de vie de Maître Eckhart. Je ne dirais pas ce que vous faites, mais vous prenez une liberté incroyable. Et certains lecteurs qu'on a rencontrés à Angers, certains se sont ont été un peu choqués de se dire « Mais comment on peut prendre une telle liberté avec un vrai personnage ?» Moi, j'avais beau leur opposer que c'est le principe du roman.
C'est ça.
Et je voulais avoir votre avis sur le fait de prendre cette liberté avec un personnage réel.
Alors, moi, ça me gêne, les auteurs qui prennent des libertés avec des personnages réels dont on connaît tout. C'est-à-dire des gens qui racontent, je ne sais pas, ce qui se passait dans la tête de Churchill, une décision que Churchill n'a pas prise pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que bon, les historiens connaissent très très bien le sujet. Donc ça, j'aime pas qu'on torde l'histoire. Mais moi, j'ai pas tordu l'histoire de Maître Eckhart. Ça, c'est ma plaidoirie. Tout ce que je raconte sur Maître Eckhart et qui est connu des historiens et qui est connu de sa vie dans le livre est tout à fait historique. Ça suit la ligne historique. L'avantage pour moi, c'est qu'il y a une partie de la vie de Maître Eckhart qui n'est pas connue par les historiens et donc qui n'est rapportée nulle part. Et cette partie de la vie de Maître Eckhart qui n'est pas connue des historiens, c'est sa mort, justement. On ne sait pas exactement à quelle date a été Maître Eckhart a disparu. On pense que c'est autour des années 1328. On ne sait pas comment il est mort. On ne sait pas où il est mort. Il n'y a pas de sépulture de Maître Eckhart. Il n'y a pas de tombeau de Maître Eckhart. Il y a simplement un mystère de la disparition de Maître Eckhart. Et là, le mystère de la disparition de Maître Eckhart, j'ai considéré que j'avais le droit de m'en emparer. Donc en fait, je ne dis pas n'importe quoi sur la vie de Maître Eckhart, pas du tout. Parce que justement,
c'était pas le sens de ma question, ça.
Ça m'a pris énormément de temps justement pour reconstituer son existence, l'intégrer dans le roman sans prendre de liberté. Mais par contre, la mort, là, je me suis lâché, effectivement. Et j'ai inventé, mais ça je le reconnais, un Maître Eckhart que personne ne connaît et qui commet des actes effectivement très, très répréhensibles. Et ça, c'est vrai que les historiens et les grands fans de Maître Eckhart peuvent me le reprocher. Mais je l'assume parce que je ne mens pas, je comble un vide.
Encore une fois, c'est la vacuité dont parlait Claude tout à l'heure. Elle est comblée.
On ne peut pas dire qu'il y ait de blasphème.
Non,
on ne peut pas dire qu'il y ait de blasphème.
Mais je dis aux auditeurs que rien que pour les 20 dernières pages du livre, rien que ça suffit.
C'est extraordinaire.
Vous avez pris. C'est absolument étonnant.
Alors, tout à fait.
Beaucoup de lecteurs aussi ont évoqué une proximité de votre ouvrage avec Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, parce que lui aussi mettait en scène une enquête médiévale face à une certaine forme d'obscurantisme. Bon, la seule différence étant que son héros, Guillaume de Baskerville, était franciscain. Mais acceptez-vous, Antoine Sénanc, cette proximité? Y avez-vous même peut-être puisé une forme d'inspiration?
Non, alors, vraiment, l'inspiration, pas du tout. J'accepte bien sûr cette proximité, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, de cette proximité. Et sincèrement, je dois le concéder, j'ai pas lu le livre du Nom de la Rose. Donc, je m'en suis pas du tout inspiré. Par contre, j'ai vu le film. Parce que je suis un grand fan de Sean Connery et j'adore cet acteur, donc je vais voir tous ses films. D'ailleurs, le film était très bon. Mais sur ce que j'ai vu sur le film, et là, je ne parle que de ce que j'ai vu, il y a quand même une grosse différence par rapport à mon livre. C'est que Le Nom de la Rose, la clé du Nom de la Rose, c'est quand même une enquête policière. Une enquête policière un peu à la Sherlock Holmes dans un couvent franciscain. Moi, je n'ai pas du tout fait d'enquête policière. C'est plutôt un livre d'aventure plutôt qu'un livre policier, mais bon, j'ai entendu le plus grand bien du Nom de la Rose d'Umberto Eco et je suis très, très flatté, très fier qu'on compare le livre. Mais sincèrement, je ne peux pas dire que je m'en sois inspiré.
Parce que Le Nom de la Rose, le film fait une place importante à l'enquête policière,
oui.
C'est vrai.
Alors peut-être que
alors qu'elle
livre...
n'est pas la partie la plus importante de l'ouvrage écrit en fait d'Umberto Eco, dans lequel on peut trouver une forme de proximité. Lorsque vous expliquez la théologie ou la philosophie de Maître Eckhart, on retrouve ce même type de description chez Eco dans son livre. C'est pour ça qu'il y avait aussi cet aspect-là qui n'a pas été autant développé dans le film.
D'accord.
Voilà.
Mais comme on a parlé de Sean Connery, je voudrais simplement rassurer les futurs lecteurs, James Bond n'est absolument pas dans l'ouvrage. Soyons clairs. Mais vous avez parlé par contre, je pense, à très juste titre des Begins. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un rapport très clair entre les Begins et Maître Eckhart.
Bien sûr.
Il y a eu des échanges. Il y avait des points communs. Maître Eckhart, c'était les sermons. Les Begins, c'était les poèmes. Mais les Begins étaient très, très axés sur tout ce qui était expérience et ce qui était vécu. Alors, bien sûr, la question qui suit, c'est est-ce que cette lecture de Maître Eckhart et l'attachement que vous y avez porté, est-ce que ça a une influence sur votre façon de penser, sur votre vie?
Ah bah oui, 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 ça, ça a une influence sur ma vie. Mais déjà, pour parler des Béguines,
ouais.
Là aussi, il y a des points communs entre les poèmes, les chants des Béguines et les sermons de Maître Eckhart. Là aussi, il y a un feu spirituel absolument extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut vraiment recommander la lecture des anthologies, des textes des Béguines. En fait, les Béguines, donc, pour rappeler rapidement, c'est des femmes pieuses qui ne sont pas rattachées à un ordre, qui sont regroupées en petits groupes de femmes tout à fait autonomes le long de la vallée du Rhin, entre le XIIe, XIIIe et XIVe siècle, et qui ont posé des problèmes à l'ordre dominicain dans la période que je décris dans le livre, parce qu'elles avaient un rapport avec Dieu que l'ordre dominicain et plus généralement dont tous les ordres trouvaient trop charnel. Parce qu'en fait, dans les livres, les poèmes merveilleux des Béguines, il y a des espèces de déclarations d'amour à la divinité qui sont très proches d'une déclaration d'amour qu'on pourrait faire à un amant ou un époux. Et ce côté justement très charnel de cette espèce de mystique extrêmement tendre et basé de manière exclusive sur la force de l'amour, les autorités trouvaient que ça flirtait un petit peu avec l'hérésie. Et donc, ils ont demandé à des grands maîtres dominicains d'aller prêcher aux Béguines la vérité officielle du christianisme à l'époque. Et ils ont choisi Maître Eckhart, qui était le plus grand intellectuel de l'époque. Ce qui était un très mauvais choix, parce que, effectivement, la pensée de Maître Eckhart résonne beaucoup avec celle des Béguines. Et donc, quand Maître Eckhart est arrivé pour surveiller et redresser les Béguines n'ont pas du tout pris comme un surveillant qu'il fallait craindre et rejeter, mais ils l'ont adoré. Et on sait que Maître Eckhart était aimé de toutes ces femmes, accueilli dans les béguinages, et finalement son enseignement a été repris par les béguines, parfois un tout petit peu radicalisé par les béguines, ce qui ne leur a pas porté chance, puisqu'il y a beaucoup de béguines qui ont fini sur le bûcher envoyé par l'Inquisition.
Elles ont payé un cher tribut. Mais c'est vrai que les deux étaient quand même très intéressants. Intéressé par un lien direct avec Dieu,
oui.
Sans qu'il y ait un intermédiaire, je parle au niveau de l'institution.
C'est ça. De l'Église. Alors le lien essentiel que revendiquaient les Béguines avec Dieu, c'était l'amour. Mais Maître Eckhart, qui respectait évidemment ce lien d'amour avec Dieu, puisque c'est quand même à la base du christianisme, considérait que c'était la connaissance qui était supérieure à l'amour pour s'unir à Dieu. L'amour, pour Maître Eckhart, ça mettait Dieu comme un petit peu comme un personnage à aimer, c'est-à-dire quelque chose qui était séparé de vous, puisqu'on aime quelqu'un, on aime quelque chose qui est séparé de nous. Et la séparation, pour Maître Eckhart, c'était inimaginable pour une voie mystique pour aller vers Dieu, puisque Maître Eckhart, le noyau de sa mystique, c'est justement l'unité, l'unification, la divinisation de l'homme, et le fait qu'il n'y ait plus aucune différence entre l'homme et Dieu. Et pour Maître Eckhart, l'amour mettait une différence justement en établissant un petit écart, alors que la connaissance, comme la connaissance est quelque chose de très personnel et n'a pas forcément besoin de quelque chose d'extérieur à nous, la connaissance était un véhicule plus droit et plus efficace pour Maître Eckhart pour s'unir à Dieu. Mais Maître Eckhart ne rejetait pas du tout l'amour.
Oui, bien évidemment.
Et il y a beaucoup de sermons de Maître Eckhart qui insistent justement sur cette voie d'amour pour l'unité à Dieu.
D'ailleurs, vous créez dans votre livre un lien très fort entre une béguine et Maître Eckhart,
oui.
Qui est un moment assez poignant, assez fort. Et on n'a jamais en fait le doute que ce soit quelque chose de charnel. Vous mettez aucun doute là-dessus. Mais il y a un lien incroyable que vous créez entre ces deux personnes. Comment ça vous est venu cette idée en fait d'extraire une béguine parmi toutes, créer cette relation particulière?
Je voulais essayer d'opposer les deux manières justement d'union à Dieu, c'est-à-dire l'union qui passe par l'amour et l'union qui est un peu plus abstraite, qui passe par la connaissance que représente Maître Eckhart. Et je voulais mettre Maître Eckhart mal à l'aise en réalité, parce qu'en fait, c'est quoi l'idée de Maître Eckhart? L'idée de Maître Eckhart, c'est justement l'union à Dieu, qui est un projet qui était assez sulfureux. à l'époque, puisque un des éléments essentiels de la théologie chrétienne, c'est qu'il y a un écart entre la créature et le créateur. Et que cet écart, il faut le respecter. Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que Dieu sera toujours au-dessus de la créature. Cet écart, d'ailleurs, il avait été nommé de manière très belle par saint Augustin, la distance de majesté. C'est-à-dire que ce qui différenciait le créateur de la créature, c'est il y a une distance de nature. Le créateur sera toujours supérieur à la créature. Cette distance, il fallait la respecter, c'était la distance de majesté de Dieu. Et le fond de la théologie chrétienne, c'est ça, parce que la place de l'Église, elle est dans cet écart. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'écart entre la créature et Dieu, l'Église ne sert à rien. L'Église, en fait, c'est une messagère qui permet de faire le lien entre la terre et le ciel. Mais si la terre et le ciel sont confondus, on n'a plus besoin de moine, on n'a plus besoin de curé, on n'a plus besoin de messe, on n'a plus besoin de rien.
Intermédiaire.
Donc, Maître Eckhart, lui, il ne voyait pas du tout les choses comme ça. Il considérait qu'il n'y avait pas de distance de majesté. Que la distance de majesté, ça n'existait pas. C'est que chaque homme était capable de s'unir à Dieu totalement, c'est-à-dire véritablement de devenir Dieu. C'est une notion assez frappante et surtout une ambition spirituelle énorme, c'est la déification de l'homme. Et donc, il a passé toute sa vie et tous ses sermons sont centrés là-dessus, sur la déification. Et comment y arriver dans cette déification? Eh bien, par un long chemin d'ascèse qu'il appelait le détachement et qui consistait à faire, comme Claude le disait, le désert en soi. C'est-à-dire rejeter évidemment tous les biens matériels, mais aussi tous les biens spirituels, faire une espèce de vide profond en soi, où il fallait abandonner tout ce qu'on savait, tout ce qu'on voulait, il fallait même abandonner l'idée de vouloir s'unir à Dieu, pour être en fait un terrain totalement vierge, qui contraignait Dieu à entrer en nous et à se fondre en nous. Et donc, je voulais lui mettre quand même un peu des bâtons dans les roues dans cette affaire, en lui mettant une femme qu'il trouve est absolument extraordinaire parce qu'elle incarne la grâce, la beauté, la pureté. Il est évidemment très très loin des désirs charnels, ça n'aurait pas été crédible d'imaginer un maître Eckhart attiré charnellement par quelqu'un, c'est pas possible. Mais attiré intellectuellement, ça c'est tout à fait possible. Et ça lui pose un problème parce que lui, qui est justement dans le chemin de la désertification, il faut qu'il n'y ait rien dans son cœur. Or, cette femme apparaît dans son cœur. Et pour lui, c'est une espèce d'obstacle dans son chemin de mystique. Et je ne dévoile pas la fin.
Non, parce que c'est vrai que ça constitue le nœud de l'ouvrage, en fait.
Ça constitue effectivement l'élément essentiel qui va faire basculer Maître Eckhart dans une autre manière de considérer son rapport à Dieu.
Et est-ce que vous conservez encore aujourd'hui, Antoine Sénanc, ce lien, cette connivence avec Maître Eckhart? Est-ce que dans votre vie, c'est encore un personnage qui compte, après avoir fait tout ça?
Oui, parce que je lis très régulièrement des sermons de Maître Eckhart et depuis quelque temps j'en lis même un tous les soirs. J'en lis même un tous les soirs parce qu'il y a une nouvelle traduction que je recommande là vraiment à tous, qui est merveilleuse, qui est une traduction faite par Laurent Jouvet des 180 sermons de Maître Eckhart traduits en une langue extrêmement accessible, avec beaucoup d'explications très simples, replaçant les idées dans leur contexte, et surtout essayant d'éviter tous les mots abstraits qui avaient un sens au Moyen-Âge, mais qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Donc, après les Croix de Sande, je suis tombé là-dessus, et depuis, je lis un sermon de Maître Eckhart tous les soirs.
Ouais, bon. Extraordinaire. Alors, c'est vrai que la proximité avec Dieu, c'est quelque chose qui est très présent chez Maître Eckhart. Je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, un sermon où il parle de la hiérarchie et de l'absence nécessaire de hiérarchie entre Dieu et la personne qui, effectivement, va rentrer en contact avec lui.
Exactement. Ceci, pas de distance de majesté.
Voilà, absolument. Ceci étant dit, pour la création, c'est peut-être un autre débat, parce qu'il a introduit quand même une notion extrêmement nouvelle, qui est celle de la déité. La déité qui se place effectivement en dehors de toute manifestation, c'est-à-dire ce qui est au-delà. Et ce qui est la source au-delà de ce qui est définissable.
Voilà, c'est-à-dire que pour Maître Eckhart, le mot « Dieu », C'est un moule qui rend Dieu un petit peu à l'égal de la créature, c'est-à-dire Dieu, on l'imagine comme il peut être. Bon, alors il y a l'imagination habituelle d'un grand homme barbu, mais même indépendamment de cette simplicité, le fait de parler de Dieu pour Maître Eckhart, c'est très insuffisant parce qu'il est marqué de création. Or, Maître Eckhart, s'il y a une chose qu'il déteste au monde, c'est la création. Pour lui, c'est l'ennemi de la création. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il est assez néo-platonicien dans sa formation. Et donc, chercher Dieu, pour Maître Eckhart, c'est pas du tout suffisant. Essayer de s'unir à Dieu, Dieu comme on l'imagine, c'est pas ça qu'il souhaite. C'est faire en sorte que Dieu n'ait plus rien de commun avec ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en penser et ce qu'on peut imaginer de lui. Or, quand on dit Dieu, on imagine ce que peut être Dieu. Lui, mais quelque chose de plus neutre au-dessus de Dieu, c'est la déité. C'est-à-dire, en fait, c'est la divinité sans image. C'est à la divinité qu'on ne peut pas se représenter.
Absolument, c'est la parole sans parole, c'est l'esprit pur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé magistral chez Maître Eckhart, c'est que ça évite, dans cette proximité, d'idolâtrer Dieu.
Absolument.
Parce que sinon, effectivement, on ne manquerait pas, quel que soit notre niveau de compréhension, de donner des attributs à Dieu, et donc par voie de conséquence, de l'humaniser totalement, et donc de l'idolâtrer.
Absolument. Dans ça, Maître Eckhart était pour abandonner toute image de Dieu, ça c'est certain.
Alors, je voulais aussi en venir un petit peu à vous, Antoine Sénanque, en revenir un peu sur votre œuvre aussi, parce que j'ai évoqué tout à l'heure que vos premiers ouvrages étaient liés à l'exercice de votre profession, des livres qui ont fait un peu de bruit d'ailleurs à l'époque, quand ils sont sortis. Et puis vous avez quitté ce monde pour arriver sur ces terrains romanesques. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez définitivement quitté ces premiers amours qui vous ont fait écrire sur votre profession? Quels sont vos projets en termes de littérature? Ne révèle rien d'interdit à ce stade.
J'ai quand même abandonné l'idée d'écrire sur la médecine, ça c'est sûr, parce que j'ai écrit un ou deux livres dessus où j'ai dit ce que j'avais à dire, on va dire. Mais cela dit, on se sépare pas de la médecine comme ça, hein, ça c'est certain. C'est vrai que mon premier livre, Blue, c'était un peu un réquisitoire contre la médecine telle qu'elle était enseignée et les risques que les jeunes médecins faisaient prendre aux patients dans les urgences, à l'époque où les jeunes médecins tenaient les urgences tout seuls. Là, maintenant, ça a beaucoup évolué et ça a changé par rapport à Blues. Il y a des seniors qui sont là. Les souvenirs épouvantables de ces urgences bondées avec un jeune médecin complètement dépassé qui faisait ce qu'il pouvait et le plus souvent très, très mal, ça, c'est des choses qui m'ont vraiment énormément marqué. Et surtout, ce qui m'a marqué et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à vivre en tant que jeune médecin, c'est l'imposture. C'est l'imposture que vous êtes obligé, en fait, d'enfiler comme une blouse, si on peut dire, puisque vous êtes obligé de faire semblant de savoir, de faire semblant de connaître, de faire semblant de décider, alors que vous n'avez pas les éléments d'expérience qui vous permettent d'exercer bien votre médecine. Et ça passe, ça, par, malheureusement, le sacrifice de la santé de beaucoup de patients. Et ça, c'est des choses que j'ai véritablement vécues personnellement. Et ça a été, le terreau de blouse. Mais bon, une fois que j'avais jeté, non pas mon venin, mais mon amertume, j'ai eu envie de faire autre chose, vous voyez. Mais la médecine vous tient au corps et au cœur, c'est terrible. Et je me rends compte que dans tous mes livres, il y a quand même un peu de médecine qui diffuse, même dans Croissant, vous voyez, où a priori, on est au 14e siècle, donc la médecine n'était quand même pas très, très développée à cette époque. Eh bien, il y a quand même des choses qui apparaissent. Et puis, il y a aussi les maladies de la médecine que je connais bien, que je fais apparaître, et en particulier la peste noire, qui est vraiment... Parce que je reste très intéressé justement par l'histoire de la médecine et la pathologie médicale. Mais plus ça va, plus j'aimerais que la médecine n'apparaisse plus du tout dans mes livres, mais j'y arrive pas.
C'est vrai que vous racontez la guerre bactériologique, les prémices de la guerre bactériologique dans votre livre.
Alors ça, c'est historique, par contre.
C'est historique, absolument.
Mais je tiens à dire que vraiment, la majorité du livre, sauf la fin, est historique.
C'est documenté.
Oui, alors là, c'est la fameuse histoire du début de la grande peste noire du XIVe siècle, qui aurait débuté dans un petit port génois de Kaffa en Crimée, sur les chemins de la route de la soie, parce qu'il y avait des Génois, des Vénitiens qui avaient des comptoirs et qui commerçaient avec les Mongols, qui étaient les Tartares, le grand empire qui dominait les chemins de la route de la soie. Et pour des raisons diverses, il y a eu des problèmes commerciaux entre les Mongols et les Italiens, et les armées mongoles ont commencé à assiéger les comptoirs italiens, et en particulier ce fameux comptoir de Kaffa. Et au bout de 2 ans de siège, la peste est apparue dans les rangs de l'armée mongole, décimant cette armée, tuant des dizaines et des dizaines de guerriers tous les jours, à tel point que le chef de l'armée mongole a décidé de lever le siège. Mais avant de lever le siège, il a pris cette décision assez extraordinaire et qui est un des premiers cas de guerre bactériologique, effectivement, qui était de catapulter les cadavres de ces guerriers infectés par la peste au-dessus des murs de Kaffa pour infecter l'air que respiraient, puisque c'était comme ça qu'on envisageait la contagion à l'époque, que respiraient les Génois, pour qu'ils rapportent après sur leur galère en revenant chez eux cette maladie. Et c'est la théorie officielle qui fait donc démarrer la grande peste noire du XIVe siècle, qui a quand même tué au moins 50 millions d'Européens sur 80 millions. Donc c'est presque deux Européens sur 3. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et donc c'est la théorie que cette grande peste noire, cette grande dévastation, partait justement de ce siège de Kaffa. Mais le livre raconte une théorie alternative.
Oui, absolument.
Ça nous a pas
échappé. Vous commencez à spoiler là.
Ouais, pas du tout. Complètement. Alors, vous avez parlé de la médecine qui est toujours un peu présente dans votre roman. Mais en fait, j'ai cru déceler aussi des sentiments qui vous tenaient à cœur. Je parle de la justice, de la fidélité et de l'altérité. J'ai l'impression et le sentiment que ce sont des points qui vous tiennent à cœur. Et il y avait un autre sentiment qui tenait à cœur Maître Eckhart, c'était l'humilité. Ouais. Parce que c'est ce qui crée le lien. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, l'humilité, pour Maître Eckhart, n'est probablement pas exactement le même sens que l'humilité telle que on conçoit. Pour Maître Eckhart, l'homme humble, c'était ce qu'il appelait l'homme pauvre. C'est-à-dire l'homme, justement, sur le chemin de ce chemin d'ascèse, du détachement, de désertification intérieure. Et c'était celui qui, justement, qui ne désirait rien, qui ne voulait rien, qui n'espérait rien, qui ne savait rien et qui redevenait terre complètement défrichée pour l'union avec la déité. Donc, l'homme humble, pour Maître Eckhart, c'était sévère, sa notion d'humilité. C'était radical. D'ailleurs, il était un peu radical, quand même.
Hein, un petit peu, ouais.
Et sinon, ce sont des sujets qui, sinon, m'intéressent beaucoup et que je traite dans mes livres, mais je dirais que finalement, le sujet qui fait un peu la synthèse entre tout ça et qui est un sujet qui est très, qui revient dans tous mes livres, je m'en rends compte, c'est l'amitié. Mais dans l'amitié, il y a de la justice, il y a de l'altérité, donc ça englobe, on va dire, le sujet. Et c'est vrai que ce livre, je me rends compte que dans mes livres, la relation que j'aime le plus écrire et que j'aime le plus lire après qu'elle ait été écrite, c'est la relation amicale. Alors, dans Croix de Cendre, il y a beaucoup d'amitiés. Alors, il y a des amitiés qui sont faciles à vivre et à écrire. C'est les amitiés entre deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment. Mais il y a des amitiés plus subtiles que j'aime bien aussi traiter. C'est les amitiés entre les vieux ennemis. Et dans ce livre, il y a une amitié entre l'inquisiteur de Toulouse et son ennemi, qui est le prieur Guillaume, qui est l'ancien disciple de Maître Eckhart et qui, tout au long du livre, raconte ses souvenirs auprès de Maître Eckhart, et qui sont tous les deux des survivants de la Grande Peste Noire. Ça se passe 20 ans après la Peste Noire du XIVe siècle. Et malgré le fait que ce sont deux ennemis jurés, il y a quelque chose, une espèce de fraternité des survivants qui crée une certaines formes d'amitié, c'est ça que j'aime, c'est que je pense que l'amitié peut pas être fondamentalement détruite. En tout cas, dans mes livres, je ne détruis jamais complètement une amitié. Il en reste toujours quelques petits échos qui font que les gens ne se haïssent pas complètement et totalement.
C'est là qu'on s'aperçoit que la construction de vos ouvrages est extrêmement subtile, parce que tous ces destins croisés, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, effectivement. C'est quand on y revient et qu'on se rend compte qu'il y a toutes ces couches, en fait, ouais. qui se croisent. Vous venez de dire cette amitié entre ennemis. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est à la fin qu'on comprend qu'en fait, il a existé, ça, entre eux. Et ça, c'est ouais. d'avoir réussi à mêler, j'allais dire, ces sentiments croisés dans votre ouvrage, comme un deuxième niveau de lecture aussi, qui peut s'approprier comme ça, peut-être.
Oui, bah, c'est ça. Et puis, il y a une chose que j'aime pas trop dans les romans, c'est les... C'est les méchants qui ont rien d'autre que leur méchanceté. Vous voyez, les méchants un peu manichéens, mmh. qui incarnent le mal, qui sont des pervers, qui prennent du plaisir à faire souffrir. Ça, c'est un type de méchant qui m'intéresse pas du tout. J'ai pas du tout envie de traiter ces méchants. Alors que moi, ça m'intéresse beaucoup les méchants, parce que dans les romans, on sait bien que c'est quand même un des éléments essentiels du roman. Mais justement, moi, j'aime bien les méchants qui sont un petit peu complexes et qui ont justement des survivances de fraternité, d'amitié ou d'amour. Et
ça fait garder un peu d'espoir en même temps.
Oui, exactement.
Oui, c'est sûr. Ça serait trop simple. Hein. Il faut savoir quand même que le mal est consubstantiel à l'humanité et à la manifestation.
Voilà, c'est ça. Mais vous ne verrez jamais dans un de mes livres un méchant qui prend plaisir à faire du mal à quelqu'un.
Alors, en fait, le prieur, dans votre ouvrage, nous fait remonter le temps au travers de ses mémoires. Alors, on passe alternativement de situations absolument cruelles à des lueurs d'espoir qui sont, je dirais, de l'ordre métaphysique. Alors, si on regarde notre époque, c'est-à-dire le XXe siècle et le XXIe siècle, alors qu'effectivement, il y a aussi des épisodes qui sont assez effroyables, est-ce que vous percevez aujourd'hui des lueurs d'espoir?
C'est la question qui tue, ça.
En d'autres termes, est-ce que Maître Eckhart et sa lecture vous apportent de l'optimisme?
Maître Eckhart et sa lecture, ça m'apporte plutôt de l'ambition plus que l'optimisme. L'ambition, puisque l'ambition de Maître Eckhart, il n'y en a pas une plus haute, puisque c'est s'unir à Dieu. Et réussir donc sa vie, pour lui, c'est réussir sa voie mystique d'union à Dieu. Et ça, je trouve que c'est une très bonne définition de la réussite d'une vie, mais il met la barre très très haut quand même, Maître Eckhart. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais lui réserver un traitement un peu dur à la fin de mon livre, parce que j'y crois pas, en réalité, à cette mystique de Maître Eckhart. Je la trouve pas possible, je la trouve trop difficile. Je peux pas imaginer qu'on arrive justement à devenir un homme déserté, un homme vide, un homme... je pense que ça dépasse en fait la capacité humaine. C'est une très très belle idée, c'est une très belle ambition, mais je pense que ça dépasse la possibilité que l'on a tous. Donc c'est pour ça que je en voulais. Donc je suis pas sûr que l'optimisme soit la marque de Maître Eckhart, mais l'ambition oui. Alors pour notre époque, bien sûr, je suis optimiste. Je pense que il va y avoir des contre-coups, comme toujours. D'ailleurs, je lisais il n'y a pas longtemps toute une analyse sur l'intelligence artificielle en médecine en particulier. À quel point l'intelligence artificielle allait rendre la médecine de plus en plus efficace, clairement, et puis de plus en plus déshumanisée. Et c'est vrai que on se rend pas compte de la tempête que l'intelligence artificielle va déchaîner sur la médecine. Et je me disais, finalement, il y a beaucoup de spécialités qui vont disparaître. La dermatologie va disparaître, puisque maintenant, les ordinateurs reconnaissent mieux que les meilleurs dermatologues la nature des lésions et les traiteront mieux. Les radiologues vont également disparaître, puisque les machines analyseront mieux les radios que... Donc, il va y avoir quand même un grand progrès, bien sûr, dans la médecine, mais aussi un énorme recul humain. Ça sera absolument incontestable. Finalement, les seules spécialités qui vont résister à l'intelligence artificielle, c'est les spécialités où il y a très peu d'examens complémentaires, voire aucun examen complémentaire, pas d'imagerie, et où il y a de l'humain. Alors, par exemple, la psychiatrie. La psychiatrie, elle va résister à l'intelligence artificielle, parce qu'on voit mal un ordinateur faire une analyse de manière complète. Allez savoir, peut-être, mais ça, je ne crois pas.
Là, pour le coup, ça sera vraiment une intelligence.
Oui, ça sera vraiment une grande intelligence. Mais il y a beaucoup de stupidité artificielle. Ça, on n'en parle pas assez, mais ça existe aussi, la stupidité artificielle. Et donc, je pense qu'il va y avoir une période où le monde va s'emballer autour de tout ça. Et là, il va y avoir véritablement une tension énorme dans notre civilisation. Mais l'histoire prouve que les tensions entraînent des contre-coups. Et je pense que ce monde qui se déspiritualise de plus en plus, qui s'artificialise de plus en plus, va entraîner un jour ou l'autre un contre-coup spirituel. Et c'est ça mon espoir pour le monde, c'est que ça ne sera pas tout de suite, mais il faut, je pense, passer par cette période de déspiritualisation pour faire renaître des feux, parce que la spiritualité, vous ne pourrez pas la détruire, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est absolument impossible. Vous ne pourrez pas la mettre dans un ordinateur, ça c'est quelque chose qui échappera toujours à l'artifice. Et je pense que ce contre-coup spirituel, c'est mon espoir pour l'humanité.
Mmh, bien sûr.
Alors Antoine Sénanque, on va bientôt arriver au terme de notre émission, mais j'avais envie d'un petit scoop, moi. Est-ce que vous travaillez sur un prochain ouvrage ?
Oui, bien sûr. Vous savez, c'est important pour moi d'écrire. Hein. C'est pour mon équilibre psychique, il faut que j'écrive. Donc... J'écris, mais alors ça sera très très différent des croissants parce que parce que c'est du boulot quand même d'écrire un livre sur le Moyen Âge. Hein. Il faut vraiment travailler beaucoup et en fait travailler pas tellement sur les choses générales historiques, ça c'est très facile, mais surtout travailler sur les détails. Et ça c'est empoisonnant. C'est-à-dire que il faut en permanence voir au XIVe siècle comment les gens s'habillaient, ce qu'ils mangeaient. Là, il y a une scène dans mon livre où on voit les deux moines dominicains passer une nuit dans une forêt. Et puis, il y a le jeune dominicain, Robert, qui dit à son ami, tiens, on va allumer un feu. Donc, j'étais en train d'écrire ce texte très facilement. Et puis, j'arrive à la fin de cette phrase. Je dis, mais en 1360, comment on allumait un feu? D'allumettes, bon, tout est comme ça. Donc vous êtes obligé de voir, comment on allume un feu en 1340, 1360. Sinon vous faites des erreurs,
des anachronismes,
des gros anachronismes. Mais c'est ça qu'il faut éviter. Donc je me suis dit que pour mon prochain livre, je vais me mettre dans une époque où il y aura pas d'anachronisme
contemporaine, possible,
presque contemporaine, puisque ça se passe dans les années 50, en 56, lors de l'insurrection de Budapest. Et en fait, ça sera un polar. Qui suit l'itinéraire de gangs, de personnages de gangs hongrois et roumains à l'époque, donc juste post-stalinienne, et qui ont comme point commun d'être, pour la majorité d'entre eux, des rescapés de la Kolyma. La Kolyma, c'était le grand lieu du goulag stalinien qui se trouvait donc à l'extrême-orient russe. Et donc j'essaie dans ce roman, parce que c'est pas tellement l'aspect policier qui m'intéresse dans ce roman, mais justement de retrouver l'histoire du goulag stalinien, retrouver l'histoire de la Kolyma, où il y a des choses qui sont très très peu connues et qui sont assez fascinantes sur le plan historique et évidemment et sur le plan du roman, ce qu'on peut en faire dans le roman. Et donc à travers un fil conducteur de livres policiers, parler de manière historique de toute l'histoire du goulag, ce qui s'est passé à la Kolyma, pourquoi c'était à la Kolyma.
Donc, après les sermons de Maître Eckhart, on aura l'archipel du goulag de Solzhenitsyn.
C'est passionnant parce que la Kolyma était ignorée de la grande majorité des Russes à l'époque.
Oui, absolument.
Alors, on faisait tout pour leur cacher, hein, puisque les trains étaient maquillés, etc.
Il y a beaucoup de Russes qui considéraient que la Kolyma, l'Extrême-Orient, en fait, russe, n'appartenait pas à la Russie. Et les gens de la Kolyma considéraient qu'ils étaient sur une île. Et que, quand ils parlaient de la Russie, continent.
C'est ça.
Alors qu'évidemment, c'est en continuité. Mais c'est une histoire absolument fascinante et tragique, mais vraiment très belle.
Donc après, le nom
merci
de la rose...
Scoop, alors. Merci pour ce scoop. Toujours chez Grasset ?
Toujours chez Grasset, si Grasset accepte le livre, puisque j'ai leur présenté rapidement, parce que comme ça, c'est aussi un problème, c'est que j'ai des délais à respecter, parce que quand vous voulez faire sortir un livre en septembre pour la rentrée littéraire, il faut le donner en novembre. À la maison d'édition, le temps de faire des corrections. Donc là, comme je n'ai pas encore tout à fait fini, je suis obligé de cravacher. Là.
On va leur envoyer le podcast, rassurez-vous. Alors, j'ai une dernière question. Je ne veux pas trahir de secret, mais Antoine Sénanque, c'est un nom de plume.
Oui, c'est un nom de plume.
Et un pseudonyme, comme on dit. Alors, pourquoi avoir choisi ce patronyme qui, j'imagine, se rattache à l'abbaye cistercienne de Sénanque? Ou est-ce que c'est un autre, origine?
Bien sûr. Non, mais quand j'ai écrit mon premier livre, Blues, donc sur la posture des médecins, qui était un livre un peu beaucoup polémique, puisque j'ai même failli bénéficier d'un auto-da-fé, puisque les internes de la Salpêtrière avaient eu le projet de brûler le livre dans la cour de la Salpêtrière. Et j'ai beaucoup regretté qu'ils ne le fassent pas, parce que ça aurait été un événement...
Quelle publicité
extraordinaire. Mais bon, à cette époque, ça bougeait pas mal. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de sortir de tout ce qui fait de moi un médecin. Et il y avait une chose qui était importante dans ma carrière de médecin, c'était mon nom de docteur. Et je me suis dit, j'ai la possibilité avec l'écriture d'avoir justement un terrain où je ne suis pas médecin, je suis quelqu'un d'autre. Et surtout, un terrain où je peux mettre une petite perfusion de spiritualité. Et donc, à l'époque, l'endroit que je préférais au monde sur le plan de la spiritualité, c'est l'abbaye de Sénanque, près de Gordes. Je me suis dit, je demande à personne et je m'appelle Antoine Sénanque. Ah, je ne regrette pas.
Il y a plus moche comme endroit, je confirme. Ouais. Alors, vous savez que chacun de nos invités est soumis au fameux questionnaire de Proust, qu'on a un peu revisité, que tous nos invités doivent affronter. Alors, acceptez-vous ce défi et ce, sans anesthésie locale.
Et ni général, j'espère.
Ah ben, général, vous ne pourriez pas répondre.
oui, bien sûr.
On y va. Quel est le principal trait de votre caractère ?
La curiosité.
Et quelle est votre vertu préférée ?
Le sens des nuances.
Et qu'est-ce que vous détestez le plus ?
Le dogme, l'esprit dogmatique.
Et quelle est la qualité que vous préférez chez Maître Eckhart ?
L'ambition.
Et alors, quelles sont les fautes ou la faute qui vous inspire le plus d'indulgence ?
Les fautes d'orthographe.
Selon vous, est-ce qu'il y aurait des héritiers contemporains de la pensée de Maître Eckhart ?
Je pense que les vrais héritiers de la pensée de Maître Eckhart, c'est les bouddhistes. Dans le bouddhisme, il y a quelque chose de très proche de la voie du détachement de Maître Eckhart, l'abandon du désir, de la volonté. Je pense que c'est plutôt l'Asie qui a recueilli le plus la pensée de Maître Eckhart, le zen notamment.
Quelle est votre idée du bonheur ?
Le bonheur, je dirais que c'est une joie dont on n'anticipe pas la fin. C'est-à-dire, l'idée du bonheur, pour moi, c'est de ne pas anticiper. Parce que ce qui détruit, finalement, notre joie, notre bonheur, notre équilibre, c'est l'anticipation de la fin. Donc, ne pas anticiper serait pour moi peut-être au moins un outil du bonheur.
Quel est votre héros favori dans la mythologie ?
Hermès, le messager entre les dieux et les hommes.
Et enfin, que souhaitez-vous dire à ceux qui ignorent l'œuvre de Maître Eckhart pour les inciter à le découvrir ? Vous n'avez pas le droit de répondre, lire Croix de cendre.
je dirais de lire le sermon 52, dans la traduction justement dont on parlait tout à l'heure de Laurent Jouvet, qui s'appelle « Heureux les pauvres en esprit ». Et ça, c'est un sermon où vous avez vraiment la fine fleur de l'enseignement de Maître Eckhart. Vous avez la voie de la déification, vous avez le détachement, et vous avez surtout une parole absolument vibrante. C'est un des plus beaux sermons qu'il a écrit, peut-être le plus beau. Et vous verrez, ça fait frissonner, vraiment.
On va s'y jeter en sortant 52. Du studio. 52, c'est noté. Ouais. Antoine Sénanque, un grand merci.
Merci
pour votre
à
participation à Témoignage écossais, qui va sans doute permettre aux quelques auditeurs qui n'ont pas encore lu Croix de cendre de se plonger à la fois dans l'univers de la pensée écartienne, mais aussi se frotter avec délectation au méandre d'un véritable thriller médiéval palpitant et dont l'épilogue ne peut laisser indifférent. Donc avant de nous quitter, je suis sûr et certain que Claude Guichard a une dernière question. Il y a toujours une dernière question planquée quelque part. Et Claude, je te laisse volontiers la parole.
Un jour, je te dirai non.
Ça fera un blanc.
Ça fera un blanc, absolument. Oui, encore une question quand même, parce qu'il y a un passage dans Croix de cendre qui véritablement m'a impressionné. C'est le fameux prêche au cafard. Ce prêche au cafard, c'est assez extraordinaire, d'abord dans cette cellule verticale. Et je trouve que c'est véritablement là où on a le croisement entre l'immanence et la transcendance avec une allégorie par rapport à l'amour qui est absolument extraordinaire. Et la question, parce que là, véritablement, on s'échappe, mais est-ce qu'on peut s'échapper des barrières de son cerveau et des limites de son cerveau ?
Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non ». Donc, c'est un livre où, justement, je réponds à cette question en 200 pages. Et donc,
on a tout le temps.
Deux minutes. Bien sûr qu'on peut s'échapper de son cerveau, parce que moi, je considère, contrairement à la science tout à fait matérialiste, que l'esprit n'est pas une sécrétion du cerveau comme la bile est une sécrétion du foie. Et je pense que même si le cerveau est un organe très compétent, il est très très inférieur en compétence à celle de l'esprit qui le dépasse de très très loin. Donc moi je pense que le cerveau n'englobe pas l'esprit, et que l'esprit c'est quelque chose de beaucoup plus puissant qui nous unit et qui dialogue avec nous, mais qui attendent nous justement qu'on sorte de notre cerveau. Et ça, j'incite beaucoup nos auditeurs et d'ailleurs le monde entier à sortir de son cerveau, ça c'est certain. Et mettre l'esprit comme grande ambition de sa vie.
Merci beaucoup, mais cette image, elle est extraordinaire. Franchement, extraordinaire.
Les cafards.
Merci encore, Antoine Sénanque.
Merci.
C'était Témoignage écossais, saison 4, épisode 5. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane de Mazure, Guillaume Mignard et, comment l'oublier, notre praticien du dépouillement des défauts sonores, Maître Julien Riquier, qui contribue toujours par son détachement des sonorités villes à la qualité auditive de notre œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignages écossais.